Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parce que moi, c'est le truc qui m'effraie le plus, je crois. Le buzz. Le moment où, d'un coup, tout le monde fait « C'est lui, regardez-le !» Et que toi, tu dis « Mais moi, j'ai pas les épaules pour gérer un buzz comme ça. Moi, il faut que... Je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne, mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute. Hein. Je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire « Pas de problème, je peux redescendre. Je connais le chemin. Et s'il faut remonter, je remonterai. » Enfin, tu vois, mais je crois qu'il y a rien de plus effrayant, effectivement, que de t'être fait parachuter en haut de la montagne et de te dire « Waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe, quoi. » Moi, je tomberai pas, je connais le chemin. Tu vois. Et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là où je ça m'intéresse pas beaucoup d'être une star. Hein.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
J'ai un manque de chaleur, moi, dans mon micro, mais peut-être que c'est dû au casque. Donc, si toi, tu sens que tout va bien...
Faut pas hésiter à le porter relativement près de ta bouche.
C'est un truc de technicien du son.
C'est parce que j'ai pas de pied, tu vois. Je préfère que tu sois...
T'as raison. Soyons libres.
Ça va être super.
On va s'éclater. Alors, tu veux parler de succès ?
Bonsoir, Verino.
Bonsoir, Fabrice Florent.
Olivier. Alors, attention, je vais tenter d'y arriver.
Ah là là, tu vas échouer. Non, regardez quelqu'un qui échoue.
Balestriero.
Putain, il a réussi, le salaud.
Bah,
je suis presque déçu, quoi.
Ouais.
Je suis presque déçu parce que du coup, je peux pas expliquer aux gens pourquoi je me suis appelé Verino. Parce que comme tu l'as bien prononcé, j'ai pas l'excuse de dire personne ne sait le prononcer.
Eh bien, c'est le moment. Mais c'est sûr que c'est mieux que Olivier Balek ou...
Ouais, il y avait mille noms qui étaient pas terribles. Mais Balestriero, pour le coup, était pas terrible parce que très compliqué à trouver. C'est-à-dire que quand t'es un peu curieux et que tu cherches du stand-up, que t'as mis 8 fois à écrire le nom que t'arrives pas à retrouver. Et puis, moi, j'ai pris ce nom-là en 2007 ou 2008, donc c'était un moment où les gens faisaient vraiment pas l'effort et où Google ne t'aidait pas. Il y avait pas de « Did you mean ?»
C'est vrai.
Et donc, vraiment, personne ne regardait mon site internet. Et donc, j'ai décidé de prendre ce nom-là. Et en fait, j'en suis très heureux encore plus aujourd'hui parce que j'ai 3 enfants et que cette semaine, j'ai réalisé en fait qu'ils étaient complètement libres, eux, de pas être juste mes fils, quoi.
Cette semaine,
j'ai réalisé ça. Ça fait 10 ans que j'ai des enfants, mais je viens de réaliser qu'ils ne s'appelaient pas Verino, les enfants, ils s'appellent Balestriero, donc au final, tout le monde s'en fout. Enfin,
Mais comment on a fait pour réaliser cette semaine ? Tu ne peux pas me dire cette semaine.
Très lent, que... mais laisse tomber, moi j'ai capté
non,
que
ma
femme...
Non, mais il y a eu un événement ?
Je sais pas, des fois j'ai des réflexions et je me dis, mais en fait, j'ai vachement bien fait de changer pour ça aussi. Jusqu'à maintenant, c'était égocentrique. Comme la plupart de mes décisions dans la vie. Et puis, quand d'un coup, tu te dis, mais en fait, c'est vachement bien pour lui aussi, c'est chouette.
T'as fait des enfants, c'est la décision la moins égocentrique du monde.
Ça dépend, hein. Tu sais, ça dépend de quel côté on le regarde, hein. Les écolos te diraient, mais pas du tout, espèce de connard, c'est à cause de toi que tu niques la planète pour ton égocentrisme. Et puis après, moi j'ai plutôt tendance à croire l'inverse, c'est que, ouais, j'ai fait des enfants parce que j'aime bien transmettre.
Oh, c'est beau, on va en parler, hein.
Ouais.
Ça me fait penser d'ailleurs à cette histoire de pseudo. J'aime bien, tu sais, faire de la promo entre mes podcasts. J'avais interviewé Maya Mazorette, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est chroniqueuse chez Quotidien et qui parle beaucoup de sexe, en fait. C'est son sujet, tu vois, le body positive, etc. D'ailleurs, très politique de la part de Quotidien de venir mettre une meuf qui vient littéralement de parler de plaisir prostatique.
Ouais.
Dans Quotidien à 20h le soir, quoi.
Ouais.
Et en fait, Mazorette n'est pas son. C'est un pseudo qu'elle a pris quand elle avait 15 ans.
Ah,
et aujourd'hui, elle dit en fait, c'est génial parce que grâce à ce pseudo, je me rends compte que je peux aller n'importe où et que je peux disparaître.
Ouais, et c'est assez agréable. Surtout aujourd'hui où le monde est tout le temps fliqué très facilement, quoi. Mais ne serait-ce que, moi, tu tapes Verino sur Google, t'as Verino femme. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit il se demande si je suis une femme, soit il cherche en tout cas l'identité de ma femme et que tu peux pas trouver parce qu'en fait ma femme déjà est inexistante sur internet, déjà parce que c'est un mensonge, je fais croire à tout le monde que je suis marié mais en fait elle n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré confort de vie pour les autres quoi, le monde qui t'entoure etc. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire, mais c'était il y a très longtemps, c'était mon premier passage à Montreux, et il y a ma femme était instite à l'époque, et il y a une de ses collègues qui vient la voir, qui lui dit, mais j'ai vu un mec génial à la télé, du coup j'ai cherché, en fait il s'appelle Balestriero, comme toi, c'est de ta famille ou pas? Et oui, c'est mon mari. Mais ça faisait 5 ans qu'elle discutait et qu'elle savait que son mari était humoriste, mais d'un coup il y a eu la crédibilisation de la télé, et du coup elle a refait le chemin inverse. C'était
génial.
Chemin. Ouais.
Et elle a fait « Oui, c'est mon mari. »
Ah ouais.
C'est mon homme.
Et j'ai écrit la moitié de ses blagues. Il faut savoir qu'on travaille ensemble.
Oui, on va en parler aussi, ouais. Bien sûr. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Vérino, quand tu avais 7-8 ans?
Je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprise. J'étais à peu près le même type de gars que je suis maintenant. Ouais, une espèce de simplicité physique. Je crois que je fais partie des gens, tu sais, où physiquement tu le vois, tu dis ouais bah écoute, ça va être ça à peu près tout le temps quoi, tu vois. T'es pas sapé méga à la mode, mais t'es pas non plus ridicule, mais t'es pas non plus machin. Une espèce de ouais, je dirais simplicité pour pas mais de milieu quoi, tu vois, un truc comme ça. Et j'étais, et puis c'est dans le texte moi que ça s'exprimait déjà à l'époque quoi, c'était dans les vannes et dans le ma manière de réagir aux autres.
T'étais déjà affûté comme ça en tant que
homme, ouais, hein. J'aimais bien quand même, hein. C'est très chouette, toi. Tu fais des blagues, ça fait rire les gens et les gens sont contents autour et ils t'aiment bien. Franchement, pour un enfant, il y a pas beaucoup mieux, hein.
Enfin, ça devient d'où?
Alors je pense que au niveau de la famille déjà on a tendance à faire des blagues,
ça vanne beaucoup.
Ouais, ma mère et mon père étaient des bons vanneurs, et puis ils nous ont eu très jeunes. Ma mère elle avait 21 ans quand elle m'a eu, tu vois. Mon père 24 25, et donc j'ai quand même évolué jusqu'à mes 15 ans avec des parents de moins 40. Donc grosso modo, j'ai eu une enfance avec des parents jeunes et qui du coup avaient beaucoup d'ironie dans le monde, parce que mes potes avaient des parents plus âgés, un peu plus friqués aussi parce qu'ils avaient eu le temps de faire une petite fortune avant que mes parents n'avaient pas eu le temps de faire. Donc il y a une espèce de colloque global entre mes parents, mes frères et sœurs et moi. Et puis donc tout était propice au rire quoi. On riait beaucoup, beaucoup de sévérité quand même. On attendait beaucoup de nous aussi à l'école et dans la vie.
Tu viens de Nancy, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement.
Tu viens de la Moselle.
La Plastane. Meurthe et Moselle.
Ouais. Putain, pardon.
Oh, putain, désolé. Alors c'est la fin de ce podcast puisque Fabrice Florent va se faire agresser par les Meurthe et Mosellans.
Pardon. Je sais à quel et point c'est. Oui, de cette là, t'as les deux.
Ouais, les deux sont pas contents. Il y en a aucun des deux qui va dire ah ben nous ça va. Non, les deux sont pas contents. Il y en a pas un des deux qui revendique.
Ils faisaient quoi tes parents comme métier?
Mon père était dans l'armée quand j'étais vraiment jeune, et je crois qu'il a commencé à... Il a bossé dans autre chose aux alentours de mes 12-13 ans, où il bossait dans une imprimerie TVRP. Et ma mère était... Ma mère, elle a une histoire particulière, parce qu'elle est partie de chez elle à 16 ans, mention très bien au bac, vraiment gros cerveau. Mais dans la foulée, elle se retrouve à... Alors, je vais dire les trucs dans le mauvais ordre. Si elle écoute, elle va me dire « Mais t'as rien écouté de ma life !» Mais n'empêche qu'elle rencontre mon père très jeune. Elle se barre, elle bosse au McDo, et en parallèle elle bosse à l'accueil d'un cabinet notarié qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites là, en fait vous êtes vraiment forte, faut que vous fassiez des études en droit. Elle va faire ça s'appelait une capacité de droit à l'époque. Elle arrive là-bas et les mecs lui disent non mais qu'est-ce que vous faites là, en fait vous devriez être un niveau machin. Et puis elle rentre à la fac et là elle a majoré toutes ces années où vraiment c'est une star, le tout en ayant des enfants. Enfin, c'est-à-dire que...
Mais c'est ça, j'allais dire. Ouais, temps, ouais. Elle était...
Elle a soutenu sa thèse à 35 ans et j'avais 14 ans, moi, tu vois. Et j'ai encore un frère et une sœur derrière, où on a 3 ans d'écart. Enfin, balèze, quoi. Et là, aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, adulte, à l'âge que j'ai, parce que j'ai 39 ans et j'ai l'âge que ma mère avait quand je lui ai présenté celle qui est aujourd'hui ma femme. Oh, je sais pas si c'est très clair.
Oui, si.
Mais en tout cas, j'ai des clairs souvenirs de ma mère à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je la respecte d'autant plus que maintenant que j'ai 3 enfants, je vois à quel point, bah, faut taffer, faut tenir la route, quoi.
Ouais, donc t'as grandi aussi avec des parents et une mère notamment qui a beaucoup travaillé, quoi.
Ouais. Et mon père aussi, travailler. Évidemment. Et donc j'ai été, alors c'est très drôle parce que du coup, je suis dans une famille un peu, je veux dire inversée, mais non, ça dépend des périodes. Mais disons que je suis pas dans une famille sexiste, dans laquelle c'est le père qui va au boulot, enfin sexiste, marqué sexuellement, ouais. On va dire plutôt. J'ai très vite vu mon père faire du ménage et faire de la bouffe parce que ma mère était dans le rush pour sortir sa thèse. Donc il y a eu des rapports très flous entre le masculinisme et le féminisme à la maison. Et je pense que c'est très riche ça pour le coup.
Ok. T'as le souvenir du premier moment où tu t'as...
Aucun, je n'ai aucun souvenir,
non,
c'est terminé,
au revoir. T'avais dit qu'il fallait qu'on parle de tes enfants.
Le mec qui a pas de souvenir. Putain. C'est fou, c'est le seul mec qui a pas de souvenir au monde.
Non, est-ce que t'as un souvenir précis d'un moment où tu te dis, ok, en fait, j'ai fait rire tout le monde, et en fait, ça c'est trop bien, et ça donne un vrai pouvoir, quoi, quand t'es gamin.
Ouais, bah là, clairement, moi je pense que la vraie prise de pouvoir, pour le coup, c'est intéressant ça, parce que il y a le rire positif dont je te parle, et c'est chouette d'amuser les gens, mais il y a la prise de pouvoir en classe. Il y a le moment où tu fais rire, tu fais déborder le prof. C'est le moment où c'est le prof qui est spectateur, alors que c'est lui qui est censé être le spectacle. Ouais, là, c'est des moments, moi, pour moi, ça m'a sauvé des moments incroyables, des moments où j'arrive en retard à l'école. Parce que j'ai un peu traîné, enfin, j'étais déjà avec ma femme à l'époque, on était ensemble au lycée, et j'arrive en retard à midi, parce qu'en vrai, on a 17 ans et qu'on est en train de baiser, et donc je suis désolé, mais là, je vais pas arriver à l'heure en cours d'espagnol.
Et arrive au cours d'espagnol. Il y a des priorités dans la vie.
Ouais, on est d'accord, quoi. Et arrive au cours d'espagnol, j'ouvre la porte, je vois le prof qui me regarde, clairement, il va me défoncer, c'est la dernière fois, enfin, il m'avait dit la dernière fois, je veux plus te voir en retard. Et j'ai juste glissé bêtement pour essayer de me, tu sais, à la c'est pas Chandler, c'est Ross dans,
ah oui,
dans Friends qui disparaissait en Unagi. J'avais pas la ref à l'époque, mais en tout cas j'ai fait ça, je suis allé me ramper pour aller m'asseoir, il m'a juste regardé avec un petit rictus et allez tais-toi, il a refermé la porte, on est reparti. Je sais qu'il y a beaucoup de moments où le rire m'a sauvé, et même en vrai toute la vie, quoi, parce qu'il y a plus rien d'important quand t'as une bonne vanne, il y a plus rien qui compte. Il y a plus d'angoisse, il y a plus, et je le vois avec encore mes gamins aujourd'hui, quand je suis en colère contre mon grand et qu'il a la bonne ligne, je dis ok, t'as gagné, mais en attendant retiens bien ce que j'ai dit quand même. Mais effectivement,
est-ce que t'as de la répartie, au moins ça c'est cool.
J'aimerais bien en avoir plus, hein.
Ah, plus.
Ouais, j'aimerais bien être plus fort, quoi. C'est une vraie domination. Mais non. Aujourd'hui, il faut reconnaître que je peux me faire tailler par un enfant de 10 ans. Tout humoriste que je suis, 15 ans d'expérience. Non, parfois, c'est lui qui sort les bonnes vannes, quoi.
Ouais, donc en fait, il y a cette rencontre-là qui est importante au lycée, où tu rencontres ta future femme,
ouais.
Mère de tes enfants, avec qui tu vas...
Rencontre ô combien angoissante. Tu rencontres la femme de ta vie à 17 ans, quoi. C'est pas du tout le plan de carrière. À 17 ans, le plan de carrière, c'est essayer de mettre son sperme dans le maximum de personnes. Tu vois, ça, c'est le plan de carrière. Et là, je tombe sur la femme de ma vie, quoi, qui est... qui, en plus, à 17 ans, c'est la puissance de l'aspect femme de ta vie. Je sais pas si...
J'ai fait pareil.
T'as
même
eu la même, hein. Ouais. Je sais pas comment t'as ressenti ça. Il y a le côté, évidemment, c'est elle. Là, avec le recul, on est un peu plus âgé maintenant. On peut se dire, je pense que on a eu le évidemment, c'est elle aussi parce qu'on était très jeune et que on s'est laissé aller, on s'est laissé complètement abandonner. Ce qui est assez courageux, mais que tu fais peut-être moins facilement à 40 ans, tu vois, de t'abandonner complètement, d'oser tout dire, d'oser affronter qui t'es, d'oser...
Et puis il y a tout à construire aussi.
Ouais.
Il y a tout à apprendre, tu parlais
du sexe. Et la coéducation, ouais, sexuellement évidemment. Et puis ouais, la coéducation, c'est vrai que quand t'es pas terminé à 17 ans, c'est hyper chouette de grandir aux côtés de quelqu'un qui est pas terminé non plus, parce que c'est ton couple que tu fabriques. Puis après, t'apprends à fabriquer aussi ta solitude. Parce que t'as jamais été... Nous, on a eu des tas de passages comme ça, des trucs où tu dis, mais en fait, je suis qui? Est-ce que je suis un peu elle, un peu moi? Ou est-ce que, tu vois, tu dois réaffirmer ce que tu veux, quel être humain, quel genre d'homme t'es, quel genre de femme elle est? Ouais, c'est tellement complexe, c'est tellement génial. Moi, je revivrais ça 1000 fois, quoi.
Ah, magnifique. Moi, je suis séparé depuis peu. En fait, ça
félicitations. J'étais là à te mettre dans mon sac en disant, tu vois, c'est génial parce qu'on comprend et on n'abandonne jamais.
Jusqu'à un moment.
Ouais.
Mais en fait, ce qui est cool, je trouve, c'est que justement, tu finis par abandonner et c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Tu vois, c'est Louis C.K. qui disait que c'était toujours une bonne nouvelle.
Ouais, c'est
un
drôle.
Un groupe qui se sépare. Mais ouais. Parce que les gens font, oh, vous séparez.
Ouais.
L'amour est mort. Mais non, c'était.
Il est mort depuis longtemps. Hein. La séparation, c'est le fait de se séparer de la séparation. Mais oui, ça fait combien de temps du coup que...
Écoute, moi, ça fait deux ans bientôt.
Deux ans, ok. Ok, et 20... ça va, tout va bien?
Ah oui, bah...
Est-ce que comme un accord, genre, oui. Écoute, on est arrivé au bout et on se
exactement.
Serre la main?
Exactement. Ok. Serrons-nous une main, ouais. Une main mouette.
Certes. C'est courageux, ça, hein?
Eh oui.
C'est vachement courageux, hein, d'affronter le doute à deux, en plus. Tu sais pas comment l'autre est en face aussi. Est-ce que l'autre, il va te dire, bah non, en fait, moi, tu vas me crever. Tu m'as niqué ma vie. Tu m'as gardé toutes ces années. Et là, aujourd'hui, tu me lâches maintenant, salopard. Ah, c'est bah, bravo ouais, à vous deux quoi. C'est, gérer un...
Ouais, c'est ça serait. Enfin, je les couples qui arrivent à faire ça, c'est enfin qui arrivent dans cette situation-là dont tu parles, ouais. Je les plains quoi, tu vois, parce que je me dis vraiment, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as une épiphanie dans ta vie quoi, ça t'amène ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, ça me parle pas, mais. mais revenons à toi si tu veux bien. Tu rencontres effectivement Marion. Mm-hmm. On va reparler d'elle parce que j'imagine que qu'elle est présente tout au long,
bah,
tout au long de ta vie.
Que ça, quoi. Enfin, je veux dire, sans elle, je suis même pas là. Et puis sans moi, elle est pas là. Enfin, c'est une. J'ai des fois l'impression d'une collaboration. Je sais même pas. Je suis incapable de dire ce que je serais devenu sans elle. Quel chemin j'aurais choisi. Je sais même pas si je serais humoriste. Quelque part dans ma tête, je me dis bah oui, évidemment, la force de cette passion, elle est tellement là. Mais est-ce que j'aurais eu les couilles? Est-ce que je me serais éteint petit à petit en n'osant pas? Est-ce que c'est pas elle aussi qui m'a toujours conforté dans le fait d'oser faire des trucs? Et inversement, encore une fois, hein, c'est à deux, t'es quand même sacrément solide, quoi. Je suis très admiratif des entrepreneurs solo parce que moi, c'est ma caisse de résonance et je suis sa caisse de résonance. Et tous ces trucs qu'elle entreprend elle-même. J'adore parler de ses projets autant qu'elle adore parler des miens et je pense que ouais, on multiplie nos capacités par 4, tu vois.
Parce que elle de son côté, elle a enfin en fait vous avez monté une boîte de prod ensemble, c'est ça?
Oui,
et elle a des projets elle de son côté et toi et vous travaillez ensemble sur tes
exactement.
Projets.
Exactement. Donc
ça
principalement, c'est sur les projets qui nous correspondent à deux, c'est-à-dire la prod, le spectacle, etc. Et puis à côté, il y a d'autres trucs sur lesquels elle réfléchit. J'en parle pas parce que je sais pas si elle a envie d'en parler.
OK. Je comprends.
Mais peut-être qu'elle me dirait oui et dans ce cas-là, j'aurais aucun mal à le faire, mais en tout cas En fait, c'est assez cool d'ailleurs parce que c'est récent ces nouveaux projets-là. Parce qu'on a toujours été à deux sur le projet Verino et il y a un truc pas facile d'être à deux sur un projet où pendant des années la carrière avance comme elle avance et donc on est toujours à deux sur le projet et on récolte tous les deux les fruits de ce projet-là. Il s'avère que depuis quelques années, je commence à en récolter plus qu'elle des fruits puisque l'image, le spectacle, ce que les gens retiennent, ils disent ah putain c'est bravo Verino et ben ils vont la voir en lui disant ah, comment il va ton mari, alors que jusqu'à maintenant c'est comment vous allez tous les deux. Et donc il y a de nouveaux équilibres qui se créent et je trouve ça vraiment fort de sa part. C'est pour ça que j'ai toujours admiré cette femme là mais d'avoir eu un moment de à me dire en fait tu sais quoi. Je suis pas ton ombre et que moi je réalise qu'en fait elle aurait pu le devenir effectivement parce que naturellement j'ai pris plus de lumière quoi.
Et ça se passe comment? Alors, sans rentrer dans votre vie privée mais en fait en termes d'équilibre je trouve ça assez génial de... ça veut dire qu'il y a forcément des moments où vous avez eu des discussions qui étaient peut-être, enfin je sais pas si c'était dur d'ailleurs mais des,
ouais.
mais des discussions un peu pivot
tout le temps.
Quoi.
Ouais. Tout le temps ouais. Ouais, vraiment des discussions pivot il y en a plein. Il y en a plein parce que dans un couple t'as énormément de choses à explorer. Enfin il y a la notion de couple à deux, c'est-à-dire toi plus moi. Il y a la notion sexuelle de je te désire, tu me désires. Il y a la notion amour on fait l'amour pas que pour le désir mais aussi parce qu'on s'aime. C'est d'une complexité absolue et tu dois sans arrêt être capable d'avoir du recul pour pouvoir continuer à désirer ta femme comme un être humain, pouvoir continuer à l'aimer parce que bah c'est la femme de ta vie et pouvoir continuer à l'admirer parce que c'est aussi un être humain différent. Et tout ça c'est des ajustements permanents quoi. Moi j'ai l'impression que de toute façon on règle jamais rien, il y a jamais de truc de bon voilà, c'est bon, c'est fait. Je pense qu'à partir du moment où t'as plus envie de te poser ces questions là, c'est là que le couple s'éteint en fait. C'est juste là bon bah c'est j'arrive au moment où j'ai une problématique. Et j'ai pas envie de la régler, ou alors j'ai pas la force, ou c'est ce moment où t'es devant la télé, puis tu te dis, ah, j'ai envie de baiser, mais là j'ai la flemme. Bon bah, ça s'est éteint, et c'est pas grave, c'est la vie. Et ouais, je crois que nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est effectivement creuser quoi. Creuser.
Et vous ajoutez à ça la dimension, enfin, un lien en plus professionnel, j'imagine,
ouais.
qui,
Mais qui est plus une chance que l'inverse.
Moi, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Soit ça te plombe peut-être le couple, parce que c'est des...
Parce que ça devient ta collègue en plus, quoi. Voilà. C'est ta femme, la meuf que tu désires, ta collègue Brigitte de la Conta, et en même temps la productrice. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça fait beaucoup de casquettes, mais je crois que nous, au contraire, c'est un peu ce qui nous sauve, parce qu'on n'est pas non plus... alors, on est au bureau toute la journée, on travaille beaucoup, hein, je crois. J'ai du mal à quantifier, c'est difficile, comme on est en plus assez peu nombreux dans la boîte.
Vous êtes que tous les deux,
c'est ça? Non, maintenant, on a embauché quelqu'un, okay. Donc on est trois. Mais en tout cas, je vois le rythme que les gens ont. Oui, on est à plus de 35 heures par semaine, plus les spectacles. Mais dans ces 35 heures-là, il y a aussi énormément de vie privée, en fait, qui se mêle à ça. Et donc, c'est aussi des moments qui font que quand on est à 17h30 à aller chercher les enfants à l'école, on peut être disponible pour nos enfants parce que dans la journée, on a déjeuné ensemble, par exemple. Alors, on était chacun dans notre bureau au moment où moi j'écrivais et puis qu'elle faisait des trucs de prod. Mais au moment où on doit être parent, on l'est. Au moment où on doit être couple, on l'est. Au moment où on est au boulot, on l'est. Et je pense que c'est finalement le paradoxe de bosser ensemble qui nous amène ça, parce qu'on bosse, on bosse matériellement ensemble, mais je crois que si c'est des moments d'ouverture possibles, potentiels, quoi, qui n'existeraient pas si on avait chacun notre métier. On rentrerait du boulot avec chacun l'envie de raconter notre truc, avec chacun l'envie de se reposer parce qu'on en a fait, avec chacun nos angoisses de la journée parce qu'on a été soumis à certains trucs. Je pense que c'est un luxe en même temps qu'une difficulté.
Donc tu es en train de jouer ton nouveau spectacle un peu partout, ouais. En France, à Paris, etc. Ton troisième donc, ouais. Et dedans on sent que en fait ces dernières années t'as aussi énormément mangé tous les changements sociétaux, en fait t'es pas du tout passé à côté, en fait désolé, mais t'es un mec...
Je rigole parce que t'as l'air surpris. Ah bon?
Je veux dire, c'est que t'es quand même un mec de 40 ans, ouais. Blanc, hétéro, t'as toutes les raisons possibles de passer à côté de ce, truc là, ouais. Et de dire c'était quand même vachement mieux avant, quoi.
C'est vrai.
Non, mais objectivement, il y en a plein, quoi. Et t'es pas du tout là-dedans, au contraire. Tu creuses les sujets, tu parles d'environnement, tu parles de sexisme, tu parles de féminisme, tu parles de plein de choses, de kitesurf aussi, rien à voir. Mais quel rôle a joué ta femme, justement, et d'avoir, comme tu dis, une femme qui, à un moment donné, dit « Moi, je suis pas ton ombre, ça dégage, quoi, ouais. Tu vois ?» dans ce cheminement pour toi depuis quelques années.
Je pense que là pour le coup le rôle il est déjà l'amour, en fait c'est bête mais je sais que je suis en confiance, mais je suis en confiance pas idiot, c'est-à-dire que si l'amour demain est terminé je le sais aussi, mais en tout cas je profite de chaque seconde, ça pour le coup c'est une force au quotidien. Et ensuite je dirais qu'en fait je bénéficie d'un regard qui est du coup pas seulement le mien, à mon avis ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le quand même c'était mieux avant, c'est il est lié à une absence de remise en question. J'ai la sensation que quand tu regardes les choses de ton prisme uniquement, et c'est le cas de plus en plus parce que les gens lisent de moins en moins, la lecture est une source incroyable d'empathie, parce que tu prends l'habitude, et moi je lis beaucoup, de rentrer dans des personnages, et donc de découvrir un personnage féminin en l'incarnant pendant 600 pages, forcément t'as une sensibilité différente. Et je crois qu'en fait avec ma femme c'est ça au quotidien, c'est que j'ai toujours son prisme à elle, puisqu'on discute de tout, donc j'ai toujours sa vision à elle, même sur des sujets avec lesquels dans lesquels on n'est pas d'accord. Enfin tu vois, il y a des tas de trucs sur lesquels elle pense comme ça, moi comme ça. Je suis obligé de réaliser que j'ai pas forcément raison. Alors après je peux être sûr de moi et dire non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais en tout cas j'ai quelqu'un en face qui va me dire moi aussi je suis sûr de moi et moi aussi c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc en fait ça pousse au doute, et donc tu n'as plus ta certitude. À partir du moment où t'as plus la certitude, t'observes les sujets en grand angle, quoi, hein. C'est marrant par rapport à Focus où au contraire t'es dans le foyer, le grand angle je pense que c'est ça ce qu'elle m'offre, elle. Autant moi je peux être focus, c'est-à-dire regarder les choses précisément, et je crois que elle m'oblige à ouvrir l'angle pour essayer d'avoir une vision globale, et puis d'intégrer que d'intégrer qu'en fait ta vision n'est pas forcément la seule. Alors c'est peut-être pas que elle qui m'aurait apporté ça, peut-être n'importe quel autre humain avec qui j'aurais vécu m'aurait apporté ça, mais en attendant le vivre.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Pas deux, c'est ça, quoi.
C'est intéressant. Hein. Mais pour revenir un peu à ton histoire, en fait, globalement, tu fais des études de sport. Tu parles.
Ouais.
Pourquoi?
Je vois bien ta tête qui regarde mon corps en disant des études de sport.
Non, mais tu faisais, ouais. Tu étais sportif.
Et j'étais sportif. J'étais pas loin d'être haut niveau en athlée. Et j'avais, pour les poules reconnaisseurs, j'étais un petit 6m43 cadet en longueur, en sans longueur.
Ouais.
Donc c'est pas mal, quoi. C'est un niveau de finale féminin aujourd'hui au JO. Je pense en vrai que j'étais au bout de mes capacités, j'aurais peut-être passé 7m40, tu vois, mais j'aurais pas pu être vraiment un sauteur, un finaliste, un Mike Powell, c'est hors de ma portée. Mais j'adorais ça, puis la rigueur de l'entraînement, etc. Vraiment, c'est des trucs, moi, qui m'intéressaient. D'autant que c'est là-bas que j'ai appris à être besogneux, parce que moi, j'ai démarré à 4m30 en saut en longueur. J'étais 20e Lorrain et j'étais vraiment en queue du peloton. Puis, je me suis entraîné, j'ai forcé, j'ai compris, j'ai apprivoisé mon corps. Je suis allé m'entraîner avec une pioche l'hiver pour pouvoir casser le sable, pour pouvoir m'entraîner à sauter. Enfin, tu vois, j'ai fait les trucs d'Olivier Tom, quoi. Et ben, mine de rien.
Pour les jeunes qui nous écoutent, Olivier Tom, c'est un dessin animé où il joue au foot. Effectivement, il galère.
Et il galère, mais il s'entraîne et c'est la force de l'entraînement qui mène à ça. Bah, tu vois, je me suis hissé en tout cas, pas au talent, j'étais pas un gars talentueux, mais à la cravache, j'ai réussi à me hisser où j'ai fini. Ouais, je pense que j'étais dans les 20 français, quoi, donc je suis assez content. Et puis, puis derrière, c'est des leçons que j'ai appliquées à l'humour. Parce que au début, tu apprends, tu découvres, tu sais pas si t'es bon ou pas, visiblement tu l'es pas, mais c'est pas grave, quoi. Cravache, continue.
Il y a des jours où il faut sortir la pioche pour.
Exactement,
pour
quoi.
Briser la glace entre le.
Et tu peux avoir du plaisir à faire ça. À briser la glace avec le public.
Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, qu'est-ce qui t'amène à te dire, ok, en fait, bah, c'est très bien le saut en longueur, mais en fait, c'est pas mon truc.
Ben, en fait, c'était pas que ça l'était pas, c'est que j'ai rencontré ma femme à ce moment-là et que j'avais d'autres activités physiques en tête. Et vraiment, je pensais aussi con que ça. C'est
non,
que
mais
vraiment,
sérieux.
J'avais 17 ans et j'ai envie de baiser tout le temps, donc je n'avais plus du tout la rigueur de l'entraînement pour le coup.
Ah yes.
Et elle, pareil, elle était en médaille d'or de piano du conservatoire de Nancy, donc c'est vraiment un gros niveau.
Ah oui.
En piano. Et tous les deux, on a une espèce de bifurcation. Il y a une année de parenthèse, l'année du bac où vraiment on a eu le bac tous les deux miraculeusement parce que vraiment on était dans notre bulle, quoi. Enfin, c'est génial. Je repense à ces années, c'est trop mignon. Je vois aujourd'hui des gamins de 15 ans, je veux dire, nous on avait 17, donc là je vois mes neveux nièces qui commencent à avoir ces âges-là et je me dis mon Dieu, mais. Et à cet âge-là, j'étais déjà avec ma femme et je me souviens des sensations qu'on avait en permanence, quoi, de l'interdit qu'on bravait sans arrêt. Enfin, c'était génial, quoi.
C'est ça qui est... Moi, le truc dont je me souviens, c'est vraiment, t'as pas un lieu pour baiser, en fait.
Oh là, l'enfer. L'enfer, la recherche, quoi. Merde, t'es là, juste faire un bisou en hiver au pied de la statue de la place Carnot, t'es comme un dingue. Et ah ouais, non, c'est à l'enfer, quoi.
Et donc, en gros, cette année-là,
en gros, c'est l'année où
ça suffit, quoi.
Puis je me blesse en parallèle parce que, évidemment, j'arrive en retard aux entraînements, donc je m'échauffe pas, je me pète le pied, puis voilà.
T'es un petit con de 17 ans, quoi. Moi, je suis plus fort que le monde.
Pas vraiment, j'avais bien conscience que j'étais moins fort, mais je m'étais dit en même temps, je m'en fous, ça m'intéresse plus, quoi. L'objectif, il est là, c'est cette personne. Et puis en parallèle, je savais que je finirais humoriste. Quelque part, je.
Ah, t'avais déjà ça au fond de toi.
Ah ouais, je savais. Je m'étais. Je vais dire, je sais même pas, je saurais pas dire précisément. Il y a un moment, j'avais associé ça vers mes 7-8 ans quand j'ai vu Bigard sur scène. Je suis pas sûr totalement de ça parce que. Je me souviens d'un flash où je vois Bigard vraiment sur scène qui fait rire des gens et qui gagne sa vie avec. Sans avoir beaucoup de notions d'argent, tu te dis bah en fait ça, je vois ma mère qui est sur son, on en parlait tout à l'heure, sur sa thèse et elle fait 24 heures sur 24, elle dort pas la nuit. Je préfère être le gars qui fait rire, quoi. Et donc j'avais grosso modo ce plan de carrière global de un jour, je ferai ça, quoi. Et
grâce à Jean-Marie,
ouais. Et je lui ai dit d'ailleurs, c'est très marrant parce que
tu l'as croisé.
Je l'ai croisé sur On ne demande qu'à en rire à l'époque. Et je crois que j'en ai fait un sketch, quoi. Parce qu'un gamin qui dit j'ai vu Jean-Marie Bigard à la télé, je veux faire de l'humour, les parents ils disent quoi? T'as vu quel sketch exactement ?
Le lâcher de salope.
Le gars, il dit. Et puis voilà, et je pense que d'ailleurs, à partir du moment où j'ai matérialisé mon envie d'être humoriste à ma femme, ça a été déclenchant aussi, parce que c'est le genre de personne qui te dit « Oui, oui, alors super, t'as matérialisé ton envie. Maintenant, comment on matérialise la matérialisation de ton envie ? Parce que c'est bien beau d'avoir envie et puis de rester toute ta vie le mec qui a un projet. » Je pense que toi et moi, on en connaît des gens qui te disent « Ah, j'ai failli. Ah, je suis en train d'écrire un roman. Ah, je vais... Non, mais là, je suis sur un coup. Ah, non, mais là, c'est sûr, je vais le faire. » Moi, ça fait... Il y a des gens, ça fait littéralement 20 ans qui me disent « Moi aussi, je vais écrire un stand-up. » Bon, bah...
Il n'y a pas grand-chose qui t'empêche d'écrire un stand-up en termes matériels, un ordinateur, et c'est bon, quoi.
Un crayon, TP, ouais. C'est... Même si t'as pas les moyens d'acheter un ordi, quoi. Enfin, vraiment... Et puis même si t'as pas les moyens d'écrire... Tu peux t'entraîner à le faire dans ta tête. Enfin, en fait, je pense qu'il y a toute une somme de barrières psychologiques qui sont très flippants et en même temps très rassurants, parce que tu te dis, c'est pas totalement de ma faute, parce qu'en fait, comme j'ai pas d'ordi, je peux pas faire de spectacle. Mais j'aurais été une grande star si je l'avais fait. Mais putain d'ordi, quoi.
Donc tu vas vers les cours Florent, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Bah, c'est elle qui m'y inscrit. Ouais, à mes 20 ans, elle me dit, bah, je t'ai offert un truc pour ton anniversaire, tu pars une semaine de formation à Paris. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Paris, hein. Si tu veux, on est à Nancy, là, on habite dans notre 40 mètres carrés à deux, elle me dit, bah, maintenant qu'on y va, on y va, enfin, maintenant que tu rêvais de faire ça, on va voir, en fait. Et j'avais jamais fait de théâtre, donc c'est vraiment la base la plus belle, enfin, c'est-à-dire, je me dis, un jour, je serai humoriste, mais je n'ai jamais joué de ma vie. Je suis monté sur scène quand j'avais 8 ans à l'école, tu vois, donc c'est vraiment...
Mais vous en avez reparlé de ça, c'est quand même ouf qu'elle
ouais,
te...
on en reparle tout le temps, parce que...
C'est dingo.
Ouais, ouais, elle a été déclencheuse de plein de trucs. En fait, je pense qu'elle a été anti-voilage de face. C'est-à-dire que regarde les choses, quoi. Tu veux le faire, oui ? Bon, bah, fais-le. Et si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Mais en tout cas, c'est faisable. Et je crois que ça, c'est un de ses trucs, je trouve que c'est une de ses forces qu'elle a, et encore aujourd'hui, tu vois, 22 ans plus tard, je trouve qu'elle, en fait, quand elle veut faire un truc, elle se donne les moyens de le faire jusqu'à ce qu'elle ait plus envie de le faire. Une fois qu'elle a plus envie, il n'y a pas de problème, elle tourne la page, et puis elle a changé 15 fois de boulot, elle s'en fout, mais elle a peur de rien, enfin vraiment, elle est impressionnante pour ça. Mais par contre, effectivement, elle se voile pas la face, quoi. Il n'y a pas de, non mais tu sais, si j'avais un ordi, non. Donc elle m'a inscrit au cours Florent, j'ai fait 5 jours de formation au mois de décembre, enfin tu vois, entre Noël et Nouvel An. Là-bas, ils me disent, bon bah écoute, ça marche bien, viens si tu veux, il y a des ouvertures de classe en janvier. Puis j'en parle avec Marion, on déménage en 2 jours, quoi. Et en 2 jours, on vient s'installer à Paris, on a trouvé un appart... cul bordé de nouilles, c'est-à-dire on arrive, c'est les provinciaux qui débarquent, on visite l'appart, on dit ouais, on sait pas trop, quoi, on va voir. Et puis on part, et puis je me dis, mais attends, on a vu quand même des tas de reportages où les mecs ils font la queue pendant des plombes, c'est très bizarre, tu vois. Donc je les rappelle et je leur dis, en fait, on va le prendre. Et les mecs, les deux propriétaires, ils m'ont dit, mais comment ça vous allez le prendre? On n'a pas votre dossier et tout. Je dis, oui, non, mais vous inquiétez pas, mais par contre, on va le prendre, quoi. Mais vous êtes qui et tout? Je dis, on débarque à Paris. Et en fait, ils ont dit, et je crois, si je me trompe pas, qu'ils avaient ils étaient les propriétaires de Uster il y a des années, quand il avait débarqué, et ils ont dit, bon, bah, écoute, un petit artiste, allez, hop, prenez l'appart, et puis voilà.
Trop bien. Ouais. C'est quoi tu crées ton premier spectacle sort en 2009?
Oui, c'est alors en vrai, ça c'est du coup un peu storytellé, pour le coup, on peut y revenir, parce que en gros, en 2004, je monte pour la première fois sur scène de ma vie, je fais 10 minutes au Palais des Glaces, j'ai passé un concours étudiant, il y avait un truc, j'ai répondu à une annonce et je me retrouve devant 500 personnes au Palais des Glaces, ce qui m'avait l'air tout à fait normal, puisque moi je connaissais que des mecs qui faisaient des DVD, tu vois, j'avais jamais vu de café théâtre, enfin, je savais même pas qu'on pouvait jouer devant 20 personnes. Donc je trouve ça normal de jouer devant 500, ça s'était hyper bien passé, pour moi ma carrière était lancée, c'était facile, quoi. Et puis en fait le lendemain, non, ta carrière n'est pas lancée, il faut réfléchir à trouver d'autres trucs. Là j'écris un spectacle parce que pareil, je tombe sur une autre annonce sur internet d'un théâtre qui fait un festival, c'était La Loge, qui s'appelle La Petite Loge maintenant, théâtre de 20 places, quoi. Je vais voir les propriétaires en disant, bah ouais, moi je vais frapper, tu vois. Bon, déjà c'est pas ouvert parce qu'en fait il y a des horaires d'ouverture, puisque le truc il fait 20 mètres carrés, ils vont pas rester 48 heures dans leur enfin ils vont pas rester toute la journée, tu vois. Je rencontre Alice Vivier là-bas qui me dit, bah écoute, ouais, viens jouer le 28 mars. Donc j'écris un spectacle, une heure complète, et je joue dans une boîte à chaussures, hein, vraiment littéralement. Le truc c'est 20 places, donc c'est 20 chaises les unes à côté des autres et 2 mètres carrés de scène. C'est vraiment, ça vaut le coup, hein, si vous êtes de passage à Paris, allez voir La Petite Loge, et en plus il y a des super spectacles. Et tu découvres vraiment un lieu où, je sais même pas, ça doit faire 15 mètres carrés.
T'es assis quasiment sur scène avec le.
Complètement.
Avec la personne
et
qui joue.
Et c'est le mec qui ouvre le rideau et qui le ferme. Enfin, tu vois, c'est toi tout seul, quoi. Et c'était encore ma femme qui faisait la régie à l'époque, d'ailleurs. Et puis je sais plus.
Donc là, t'es à la petite loge, à la loge, ouais. À l'époque, c'est ça. Et donc, tu joues ton premier spectacle.
Je joue mon premier spectacle qui s'appelle La vie à 5 ans. Parce que c'est un spectacle pour enfants, pour adultes. C'est-à-dire, je voulais réussir à choper le rire d'enfant. Mais dans ta tête, dans ton cerveau d'adulte, j'avais adapté le truc parce que c'était une erreur totale. Parce qu'en vrai, j'avais fait une affiche de spectacle pour enfants avec des vannes dedans, mais les gens pensaient que c'était un spectacle pour enfants, du coup.
Ouais.
Et donc, ils venaient en famille et tout. Alors, c'était cool, mais la moitié des gens n'étaient pas concernés. Les autres se disaient « Ah, bonne surprise, en fait !» Mais bon, les enfants n'écoutaient pas tout. Donc, c'était un peu casse-gueule. L'année d'après, j'aurais écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « La vérité sort de la bouche d'Olivier Balestriero », puisqu'à l'époque, j'avais gardé mon vrai nom. Qui est un début de stand-up où je découvre, en fait, je me rends compte que j'aimais bien le stand-up, puisqu'à la fin du premier spectacle qui s'appelait La vie à 5 ans, en impro, je racontais des trucs, je disais aux gens, bah, mettez des critiques sur Pierre et Luc, c'est cool, machin. Et puis en fait, il y avait plein de rires qui découlaient de ça, je me dis, ah, j'aime bien, en fait, faire ça. Du coup, j'écris un stand-up. Ce stand-up-là, je crois que c'est par là que me découvre Juste pour rire. Et dans la foulée, j'écris un troisième spectacle qui va, du coup, en fait, devenir le premier, fort de toute l'expérience que j'avais, parce que les deux premiers étaient tellement, je peux pas les revendiquer, quoi. Ouais,
quoi.
C'est ça. Je peux pas dire que c'était des spectacles. En vrai, c'était vraiment de l'expérimentation. Je savais pas où j'allais. Je testais des trucs. J'avais aucune notion d'écriture. Le premier, c'était que des personnages, tu vois. Le deuxième, c'était que du stand-up, mais du stand-up, ce que j'en imaginais. Donc, il y avait pas encore la dynamique des vannes. Je savais même pas écrire de blagues. Je n'avais pas de notion de ça, quoi.
Oui, puis on est en quoi? 2005-2006. Il y a pas vraiment toute la culture qu'il y a aujourd'hui autour du stand-up, quoi.
Bon, du coup, j'essaie d'apprendre l'anglais. J'écoute les Américains. Je reconnais des vannes d'Américains jouées par des Français. Dans des bars, et je fais les gars.
C'est vous, copie comique.
Quoi, terrible. Ne dis rien.
Ok.
Et voilà, donc officiellement, oui, effectivement, mon premier spectacle est en 2009. Le premier que je joue au théâtre de 10 heures. Puis le deuxième qui se. Donc le premier se termine à Merde à l'Olympia en 2013. Le deuxième spectacle.
Attends, tu dis ça comme si. Mec, t'as quand même produit tout seul.
Oui, c'est vrai.
Un Olympia,
ouais.
Où t'as dit, je voudrais remplir l'Olympia et en fait, tu démarres sur Internet. Enfin, moi, j'ai un peu l'idée t'étais pas trop sur Internet avant et que t'étais dans les salles comme plein de gens, quoi.
Ouais.
Et 2013, il y a pas encore l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où moi je commence à te voir et je fais tiens, Virino, il commence à parler de lui,
des
quoi.
Trucs, quoi. Mmh. Parce que la télé prenait pas mal de place, mais en même temps, on sentait bien que c'était un média vieillissant. Comment réussir à créer quelque chose qui te rende indépendant? Moi, je pense qu'on n'est jamais plus heureux que quand on est indépendant, parce que on n'est pas soumis au désir des autres. Moi, c'est quelque chose auquel je réagis mal parce que j'ai pas envie de décevoir. Et donc, quand je me retrouve en télé à faire une émission, j'ai pas envie de décevoir, c'est une chose, mais j'ai pas envie de ne pas répondre aux attentes. C'est-à-dire que moi, si j'ai une émission de télé dans laquelle je veux un mec qui fasse ce type de truc et que je l'appelle, s'il fait l'inverse, je vais dire, j'aurais bien aimé que, tu vois, c'est ça que j'imaginais. Donc, je me mets très facilement au service de la création. Là, pour le coup, je trouve que c'est le rôle du comédien. C'est que dans un film, tu viens pas faire le clown si on t'a demandé de pas le faire, tu vois. Mmh. Et donc, je correspondais à ça. C'est-à-dire que je venais en télé en disant quel est le schéma de l'émission, comment je rentre dedans, et je m'adaptais.
Parce que on n'a pas parlé, mais t'as fait On demande qu'à en rire pendant des années, quoi.
Oui, c'est ça. Je suis resté 2 ans et demi, 3 ans, je crois, dedans. Mmh,
parce que...
Mais je me confortais complètement. Enfin, je m'adaptais au format, quoi. Sauf que le format, il m'allait pas. Mais j'étais suffisamment malin et fort pour m'adapter au format. Mais du coup, je défendais pas réellement ce que j'étais. Donc, et là, c'est ce moment-là où je me dis, en fait, la solution, c'est de pas avoir à t'adapter à quelqu'un. C'est-à-dire que t'es ton propre patron, tu montes ta propre chaîne, tu fais tes vidéos. Et donc voilà. Et donc la première étape, c'était ça, c'était de réfléchir à comment, s'indépendantiser sur l'Olympia, quoi. Faire un truc où, parce que concrètement, j'étais pas à un niveau où toutes les télés allaient m'appeler en disant, on est trop content que tu fasses l'Olympia. Enfin, vraiment, on parle de l'Olympia de Bigard ou de Gad Elmaleh. Suite Verino, en vrai, personne n'en a rien à foutre. Et donc, je m'étais dit, partons de ce principe-là. Les gens s'en fichent. Donc, ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans. Ça sert à rien de dépenser de l'argent en promo. Je suis pas connu, donc on va pas mettre des fiches partout. Par contre, le fait qu'on dépense pas cet argent-là, on va descendre le prix de la place à un prix minimum, et là pour le coup c'était 20 euros, enfin 19,99. Mais la contrepartie, c'est que j'explique aux gens, en fait c'est vous qui faites la promo, quoi. Et donc je fais des vidéos chaque semaine pour expliquer où on en est. Et en fait, c'est devenu un jeu presque. Les gens, ils se disent, bah ouais, nous, on va repartager tes vidéos, puis faire en sorte que l'argent que, au lieu de payer 50 balles de communication et la moitié d'invitation de la salle parce qu'il faut rentabiliser le truc, bah, en fait, nous, on l'a rentabilisé avec les gens qui payaient exactement le prix de la place. Donc je suis très, très, très heureux de ça parce que c'était un Olympia complet à 100% de payant, quoi.
Et t'as été complet la veille du spectacle. Enfin, c'est...
Ouais, ouais, grosse victoire, quoi.
Ça te, j'imagine que c'est un gros shift aussi, ça, dans ta carrière à ce moment-là, de te dire que t'es capable de remplir l'Olympia tout seul.
Oui, c'est ça.
C'est pas anodin.
Il y a ça, et puis il y a en même temps toute cette, cette espèce de ligne de mire. Moi, je pense que ma carrière, je suis capable maintenant, avec du recul, de dire, ah, là, il y a eu un mouvement, là, il y a eu un mouvement. Mais la vérité, c'est que ça tourne des pages, en fait. Je crois que quand l'Olympia a été fait, ça a juste tourné le truc. Je me suis dit, bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc, ça m'a relancé sur une nouvelle dynamique, mais... ouais, je vais pas mentir, il y avait de la fierté quand même de monter sur le plateau de l'Olympia, d'avoir ton nom sur l'affiche, quoi. Mais en même temps, je crois que la vraie fierté, en vrai, c'est aujourd'hui d'être encore là sur le plateau. D'avoir joué devant 32 personnes pendant l'épidémie, parce que je pouvais le jouer au Luxembourg. J'ai joué devant 32, je l'ai fait, et je le fais avec autant de plaisir. Et si aujourd'hui il y avait plus de 12 personnes dans ma salle, bah pareil, je jouerais avec autant de plaisir. En fait, moi, j'ai l'impression que mon vrai kiff, c'est de continuer à proposer des trucs qui correspondent à ce que je veux faire. Voilà.
Et quand tu dis d'être encore là aujourd'hui, tu parles par rapport au Covid et de
c'est d'avoir ça, survécu. Non, c'est plutôt sur la longueur de la carrière,
ah, okay.
C'est-à-dire de pas avoir cédé à une facilité quelconque, d'être, tu vois, ça fait, demain j'enregistre ma 204e vidéo en live, et bah c'est un combat quand même quotidien, ça, hein, de d'écrire toutes les semaines un truc, de l'apprendre par cœur, de le jouer, de faire le montage dans la nuit, enfin c'est des nuits interminables, c'est de la fatigue le week-end alors que t'as les enfants, c'est de la pression sur scène et tout ça, et ouais, je suis plus content d'avoir réussi à garder ce rythme de travail pour découvrir comment se déployer ma carrière, plutôt que d'avoir déployé ma carrière à force du poignet. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si je suis très très clair. Hein. Pardon
si
pour
je
les
vois,
auditeurs,
c'est qu'en fait, enfin, je crois voir ce que tu veux dire, dans le sens où t'as préféré jouer le marathon.
Ouais.
On parlait d'athlétisme.
Ouais.
Que de te dire, ok, je vais aller faire un coup de buzz et je vais rester.
Oui, c'est ça.
Je vais me plier à ce que on demande qu'à en rire veut, quoi. Tu vois.
Je crois que c'est assez juste, effectivement. Et donc l'Olympia, c'était une étape du marathon et je l'avais en tête. Je savais que ce serait une étape. Peut-être qu'il me ferait un peu accélérer parce que oui, ça c'est vachement fort quand tu dis que t'as fait l'Olympia au niveau crédibilité, tu peux commencer à dire, ah, putain, oui, c'est pas un mec qui a fini son spectacle. Dans une salle de 50 places, il a réussi à grimper, quoi. Et après, c'est mon côté prod aussi, où j'ai bien conscience que parfois faut réussir à marquer des grands coups pour pouvoir simplifier la lecture aussi de ta carrière, parce que c'est bien beau de dire que tu fais un marathon, mais si les gens te voient juste courir comme ça, ils sont pas au courant qu'il y a 42 km, quoi, tu vois. Ils se disent, bon, il fait un footing. Non, c'est un marathon.
Donc, c'est voilà. Beaucoup plus compliqué.
Je m'excuse d'abord, vraiment, si tout n'est pas clair, parce que c'est vrai que là, je suis parti dans un
truc. Ah non,
dans un truc.
Je crois que quand c'est clair pour moi, les gens, c'est souvent clair pour eux.
Okay.
Je voulais t'amener aussi sur un truc, c'est que j'ai interviewé Paul Taylor et qui me disait qu'il avait aussi un peu ce truc d'avoir peur que la vague du succès redescende, si tu veux.
Et... Alors moi, c'est pas un truc qui m'effraie, ça.
Ok, parce que tu vois, de se dire, ok, à un moment donné, je vais me lancer sur YouTube et en fait, je vais pas faire une vidéo par mois, je vais faire une vidéo par semaine.
Ouais.
Et tu vois, t'as ce truc où bah, tu finis par te rentrer dans un truc où il faut que t'alimentes, quoi.
Ouais.
Je me demandais, tu vois, si c'était un truc qui...
Bah, ça fait partie du challenge, hein, pour le coup. Pardon, je t'ai coupé. Mais pour moi, gérer un succès, c'est infaisable. Enfin, te dire j'ai peur que ça redescende et tout ça, tu peux être que soumis à la peur parce que le succès, t'y peux pas grand chose. Ce sur quoi tu peux influencer sur quoi tu peux influer, c'est le travail, en fait. Et donc, pour le coup, en étant toutes les semaines sur YouTube, la seule chose que je peux faire, c'est faire la meilleure vidéo possible pour qu'elle fonctionne et que les gens s'y retrouvent et qu'ils se marrent et qu'ils aient envie de venir voir mon spectacle. Après, tout le reste, je n'y peux rien. C'est-à-dire, si je fais la meilleure vidéo possible et que tout le monde la trouve nulle, je suis désolé, mais du coup, je n'ai pas de prise là-dessus. Et donc, le succès, par exemple, j'ai pas peur qu'il retombe parce que je ne sais même pas s'il est déjà arrivé. Tu vois, j'en ai aucune notion. Enfin, pour moi, je suis toujours l'artisan, je suis toujours dans la même loge, tu vois. On se connaît depuis un bout de temps maintenant. Je suis toujours dans la même loge, du même théâtre, avec mon même ordi sur lequel je gratte. 200 vidéos les unes après les autres, sans compter tous les stand-up de salon pendant la période de Covid, sans compter les théâtres de salles vides que j'ai fait au mois de juin. En fait, j'ai l'impression que quand t'es focusé, en tout cas, c'est non. Je vais pas dire ça parce que ça voudrait dire que je pense à la place de Paul, mais c'est vraiment pas ce que je veux faire. Ce que je veux dire, c'est que dans mon cas,
donne ta réponse à toi.
Être focusé sur ma création m'empêche de me poser des questions sur toutes les fioritures autour. Et je m'en pose de moins en moins sur toutes les fioritures autour, c'est-à-dire que j'ai pas le temps. Et si le succès redescend, bah en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais gagner un peu moins d'argent, qu'il y aura un peu moins de gens devant moi dans ma salle. Bah ouais, mais en fait, on y pense aux quelques-uns qui restent parce qu'ils ont encore envie, tu vois. Et en fait, c'est ces gens-là que j'ai envie de nourrir, quoi. Moi, je pense à Skyrock. Quand j'avais 15 ans, Skyrock est devenu une radio de rap. Et moi, j'adorais Skyrock parce que j'adorais le rock. Alors maintenant, j'ai découvert le rap et j'aime beaucoup. Mais à l'époque, je n'aimais pas le rap et je me disais, putain, ma radio que je kiffe, elle a complètement changé pour devenir autre chose.
C'est terrible. Je suis d'accord avec toi.
Plus point de repère, quoi.
Ouais, carrément.
Et ben, tu vois, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis, j'aimerais bien rester Skyrock pour les gens qui aiment Skyrock, tu vois. Je préfère être un Vérino pour les et continuer à avoir ma dynamique d'écriture, mon style et ma manière de faire pour ceux qui apprécient vraiment, plutôt que de m'élargir. Et on en connaît plein, des artistes, des mecs. Moi, il y a des tas de types que j'adore en chanson française, qui ont fait des trucs géniaux. Et pouf, ils sont devenus des stars. Ils ont sorti 3 albums un peu merdiques. Ils ont fait du pognon. Puis résultat, ça s'est éteint. Alors, ils ont peut-être acheté une belle maison. Ils ont peut-être beaucoup de succès. Puis ils font partie des Restos du Cœur. Mais en vrai, moi, j'ai perdu l'artisan. Là, j'ai trouvé une star. Ouais, bah, je m'en bats les couilles, la star. Moi, je veux l'artisan. Je suis qui transpire. Je suis qui réfléchit. Bah, j'aimerais bien être un artisan toute ma vie. Et parfois, les artisans, ils ont pas autant de succès que les stars. Et bah, tant pis pour le succès, quoi.
Ah, donc t'es vraiment là-dedans. C'est-à-dire ouais. que tu préfères te dire, voire même repousser éventuellement le succès pour rester quitté, quoi.
Bah, en fait, le succès, il a vraiment ceci d'effrayant que tu n'en es pas responsable. Tu sais pas quand ça s'arrête. C'est pas toi qui décides. Donc moi, plus tard il arrive, mieux je me porte. Hein. Quand j'ai vu arriver, on parlait d'internet tout à l'heure. Moi, j'ai vu le moment où je suis parti sur YouTube, c'est qu'il y avait Max Boublil qui commençait à faire des trucs. Ouais. Il y avait Norman qui avait fait un ou deux buzz à 200 000 vues. Il y avait Kev Adams qui avait commencé à faire des trucs aussi, et je regardais ces carrières là vraiment il y a beaucoup de mes collègues qui bavaient devant. Je crois que je suis un des rares à avoir envoyé un message à Max en lui disant bon courage, hein. Parce que moi, c'est le truc qui m'effraie le plus, je crois, le buzz, le moment où d'un coup tout le monde fait c'est lui, regardez-le, et que toi tu dis mais moi j'ai pas les épaules pour gérer un buzz comme ça. Moi il faut que je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne. Mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute. Hein. Je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire pas de problème, je peux redescendre, je connais le chemin. Et s'il faut remonter, je remonterai. Enfin, tu vois, mais je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant, effectivement, que de t'être fait parachuter en haut de la montagne et de te dire waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe, quoi. Moi, je tomberai pas, je connais le chemin. Tu vois. Et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là où ça m'intéresse pas beaucoup d'être une star. Hein.
Ok, ok. Mais ça veut dire aussi que tes décisions de carrière, bah, par exemple, tu continues à jouer dans ce théâtre ouais. qui fait 500 places, alors que peut-être tu pourrais te dire aujourd'hui qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des plus grosses salles, quoi.
Ouais, c'est possible. Mais du coup, on s'est fait quand même des petits jeux, tu vois. On a eu le Grand Rex il y a 2 ans. On a eu le Théâtre Antoine, Bobino, l'Olympia. J'aime bien quand même ces petits jeux-là, ces petits moments. Mais je préfère. Puis 500 places, c'est pas dégueu quand même, je trouve.
C'est déjà bien 500 places.
Déjà, moi j'hallucine, je suis trop content. Je suis putain, quand même, 500 places 3 fois par semaine, on est bien. Donc je suis déjà officiellement, en voulant me mettre hors de la course, si je me dis que j'étais dans la course, je suis pas mal, tu vois. Mais je refuse de m'y mettre parce que j'ai pas envie que ce soit une victoire, le nombre de spectateurs. Moi, ce que je veux, c'est que. C'est presque le nombre de changements de vie, mais enfin, c'est ridicule de dire tout ça et l'espèce de philosophie à la con, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est rendre les gens heureux, tu comprends?
Bah, t'as le droit de le penser et de le dire,
ouais,
en fait.
Ouais. Mais je trouve qu'il y a un petit discours un peu démago qui pourrait avoir l'air de pointer le bout de son nez, mais en tout cas, c'est.
Je trouve que ça.
C'est plutôt sincère, quoi.
Oui, voilà. je crois que les gens sont suffisamment malins pour. Pour capter qu'en
fait. Ça fait deux fois que tu paries sur l'intelligence de ton public. Hein. Je crois que vraiment, ils vous aiment. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Mais je parle de ton public. En plus, je parle non, de ton public.
Je le chéris, mon public. Je le chéris d'amour. Quoi. C'est vraiment. Il ne pardonne rien.
Ouais, justement, j'allais t'en parler parce que t'as aussi, toi, été de plus en plus, justement, sur des sujets sociétaux. Tu parles d'environnement, tu parles de trucs, tu parles de végétarisme, etc. Ouais. C'est pas des sujets qui font vraiment. Et puis, pareil sur Internet, hein,
Ah ouais.
Enfin, sur Dis donc Internet.
Oui.
Tu, tu, tu passes jamais à côté du sujet polémique de la semaine.
Ouais, non, ça m'intéresse.
C'est l'objectif.
Ouais.
J'imagine que ça a dû te faire perdre des gens, gagner
ouais,
d'autres.
Pense. J'en perds. Bah, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo sur Zemmour. Donc évidemment, là, pour le coup, Zemmour, on s'en doute bien que c'est clivant. Je comprends aussi pourquoi, parce que les gens qui sont fans de Zemmour sont persuadés que le reste de la planète est trop con pour comprendre Zemmour. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, le problème, c'est pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord, c'est qu'en fait, les gens qui suivent Zemmour sont persuadés que les autres n'ont pas compris que c'est Zemmour l'avenir. Mais ils intègrent pas vraiment qu'on peut juste ne pas être d'accord. Et juste dire, en fait, moi, j'ai compris ses idées, hein. J'écoute ce qu'il dit, et vraiment, pour le coup, j'en bouffe au-delà de ses chroniques et tout ça, j'essaye de comprendre quand même la psychologie du gars. Et à la fin, je suis capable de dire, bah, je suis pas d'accord. Et les gens te répondent, non, en fait, c'est pas que t'es pas d'accord, c'est que t'as pas compris. C'est que lui, il a raison et que toi, t'es trop con. Et donc, bah, forcément, quand c'est clivant, c'est intéressant parce que l'idée, c'est quand même de réussir à tendre la main. En fait, de réussir à faire en sorte que même le plus grand fan, on va dire sur Zemmour pour le coup, parce que c'est facile de le lire comme ça, le plus grand fan de Zemmour, quand tu fais une vanne qui tombe bien, il fasse « Ah oui, c'est vrai ». Tu vois, moi, c'est ça mon idée. Parce que pour le coup, tu peux réunir, quoi. Tu peux faire en sorte encore de tendre la main. Mais ouais, j'ai pas peur d'être clivant, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte que de mettre d'accord les deux mondes, parce qu'aujourd'hui en fait il y a deux mondes dans chaque truc dont on parle. C'est-à-dire que tu vas avoir ceux qui s'expriment sur l'écologie, t'as ceux qui te disent c'est de la connerie, les climato-sceptiques qui te disent c'est vraiment n'importe quoi, et puis en fait c'est comme ça, c'est des vagues, et puis t'as ceux qui te disent mais t'es malade ou quoi, faut arrêter de manger de la viande, il faut se doucher avec du savon sec, et donc t'as plus le milieu, tu vois, les gens qui disent alors moi je vais vraiment faire mon maximum, je vais progresser, je crois aussi un peu en la science, peut-être que ça va nous aider, peut-être la conscience collective, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à pousser. T'as ceux qui vont dire faut pas voter vert, c'est des tocards. T'as ceux qui vont te dire bah oui mais voter vert ça va réveiller ceux qui sont pas verts à la base, mais qui se disent ouais, politiquement ça devient la mode de l'être. Donc on sait pas, en fait le monde est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, et il y a de moins en moins de place à la complexité. Maintenant on te donne que les deux lectures, bien ou mal, oui ou non,
à la nuance.
Voilà, il y a plus
nuance,
de nuance,
très compliqué. Bah d'ailleurs ouais. Tu t'en parles très bien, tu dis que t'es végétarien, mais
ouais voilà. Ouais, la nuance quoi, c'est-à-dire j'ai une fonte végétarien, je sais qu'il faut, bah parfois. Il y a aussi des moments où ça va vite, quoi. C'est pareil, j'aimerais bien ne jamais manger de la merde, mais des fois, t'es au supermarché, t'as 45 minutes pour bouffer, il y a un sandwich, tu sais bien que ça va pas être bon pour ton corps, hein, mais bon. Et puis, c'est comme ça pour tout, en fait. Il y a des fois aussi, tes enfants, tu les engueules parce que t'es un peu à la bourre, que t'es pressé, que t'es stressé, que tu t'es levé trop tard, j'en sais rien. Ça veut pas dire que t'es un mauvais père de manière générale. Et en fait, on a toujours ce côté maintenant tout blanc, tout noir. Et si t'es pas tout blanc, ferme ta gueule. Bah non, en fait. Si on empêche les gens de l'ouvrir parce qu'ils sont pas parfaits, bah, qui parle, quoi? Greta, voilà. Il reste plus qu'elle qui a le droit de dire des trucs. Et en plus, quand elle va dire des trucs, on va se foutre de sa gueule parce que c'est pas bien de dire blablabla. Oh putain, les gens sont fatigants. C'est vrai. Et je me mets dedans, on est tous fatigants.
Tu te trouves fatigant aussi, toi?
Bah ouais, je crois que... Déjà, je suis bavard, comme tu le constates.
Mais c'est une bonne chose pour ce podcast, tu sais.
Pour les podcasts, ouais, c'est sûr. Mais après, les gens avec qui je vis, des fois, ils en ont marre. Non, ouais, je pense que, en fait, ça dépend. En fait, t'es fatigant pour tout le monde et pour personne. Moi, il y a des gens qui me fatiguent et en même temps qui me nourrissent. Vraiment, Zemmour est fatigant et en même temps, il est très nourrissant parce que il nourrit. Et encore une fois, même mon discours là, enfin, oui. Mais c'est un exemple flagrant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à écouter ses idées pour les démonter, et à la fois il m'énerve. Donc il y a un truc, tout le paradoxe, c'est pour ça qu'il prend tant de place, c'est que les gens sont dans la même situation que moi, ils disent mais je l'aime pas, mais je le regarde.
T'as aussi monté, et c'est pas anecdotique dans ton parcours, l'Inglorious,
ouais.
Comedy Club.
Inglorious Comedy Club, ouais.
Qui est une boîte de, enfin, donc qui est un plateau.
Ouais, un plateau d'humoristes.
Que vous avez produit, donc pour le coup, c'est ta prod à toi, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. C'était, je crois que c'est monté en 2014, si je me trompe pas. Puis ça a démarré tout petit, au théâtre de 10 heures, sans place. Et puis ça a fini au grand point virgule, là, dans la salle de 500, fois 2, puisqu'on doublait. Enfin, je parlais au passé, parce qu'on n'a pas repris depuis la pandémie.
Ah, vous avez toujours pas repris, là?
On a fait une date à Bobino,
okay.
Où pareil, on a fait double Bobino. Ouais, c'est chouette.
Gros
parce
théâtre,
que c'est
Bobino,
plateau.
C'est quoi? C'est 800,
ouais. Donc on a fait 1006 juste après, en sortie de pandémie.
Waouh.
Ouais, c'est génial parce que pour le coup, c'est encore une fois, c'est un succès qu'on n'a pas cherché en fait. C'est juste, on a fait le truc le mieux possible et puis ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que faire le truc le mieux possible et que les gens aiment bien. c'est ça, l'inglorious, ça vient avec inglorious, pas glorieux. Hein, c'est vraiment la traduction littérale. Je me disais, c'est une période où j'avais identifié que ma manière de faire, elle était clairement dans l'absence de gloire. Il y a rien de même si je le voulais travailler et trouver le chemin de la gloire, en fait, je n'ai aucune idée d'où il est. Les rares entreprises de ça va être quelque chose qui va briller, se soldaient par un ça brille pas tant que ça, quoi. Tu vois. Et j'aimais bien en fait cette idée-là. Je me dis putain, c'est génial. Vous êtes l'entrepreneur qui a pas peur, l'espèce de roseau. Tu vois, tu plies mais tu romps pas, quoi. Et je trouve ça colle pas mal à ma carrière quand tu la regardes. Il y a eu plein de moments où j'ai plié, je touchais le sol, puis ça remonte tranquillement, et puis en fait t'es là, quoi. Et Inglorious, c'est ça, quoi. Et j'avais envie d'avoir un plateau dans lequel je pourrais inviter tous mes potes dont je suis proche, en fait. On manquait de temps aussi pour se voir parce qu'on travaillait tous beaucoup. Et donc je m'organisais les lundis soirs au début puis les mardis après pour faire ces plateaux-là. Avec des artistes géniaux, quoi. Là, on en a encore un bientôt dans le coin de Lyon, je crois, au mois de novembre, où on est avec Madénian, Tania, Dutel, Tom Villa, je crois, et Alex Vizorek, il me semble. Enfin, voilà. Okay. En tout cas, toujours des très belles programmations avec des artistes super cool.
J'en profite pour faire un rebond sur Tania, justement, parce que vous l'avez produit pendant tout un temps. Vous avez un peu mis de côté pour l'instant, c'est ça, la production de Tania?
Oui, c'est ça. Enfin, on a complètement arrêté en fait. Hein. Ouais. De manière toute simple, en fait, c'est qu'on a vécu un an et demi de pandémie et que dans ma boîte de production, j'avais plus l'argent pour investir et pour développer et donc garantir un bon développement à une artiste. Parce que en tant qu'artiste, je sais ce que c'est d'avoir un producteur qui te suit et qui est sous l'agent, c'est génial, c'est cool. Mais il faut une assise financière que moi j'avais plus et j'avais pas envie de lui mentir. Et puis je suis pas que producteur, pour le coup je suis effectivement artiste. Donc j'ai mon côté producteur, j'adore et j'étais fier de pouvoir filer un petit coup de main à Tania et puis d'essayer d'être un bon producteur pour elle. Mais à partir du moment où tu te rends compte que financièrement t'as pas les épaules, je trouvais ça injuste. Je me suis dit elle a un paquet de dates de tournée sur lesquelles pour être concret, on devait partager les finances puisque j'avais investi de l'argent, qu'elle avait investi son travail et que notre collaboration devait se répartir de telle manière. Mais au bout d'un an de pandémie, j'ai plus l'impression que l'argent c'est moi qui l'ai dépensé, j'ai plus l'impression que le travail. Enfin, j'ai du plaisir à faire tout ça avant et c'est pas pour récupérer une partie de l'argent qu'elle va gagner sous prétexte de réinvestir peut-être plus tard si j'ai assez d'argent. Enfin, tu vois, et il y avait tout un côté financier qui je me suis dit te pose pas cette question, quoi. Donc on est allé voir Tania, on lui a dit écoute, on a plus de thunes, on va essayer de faire ça bien, tu pars toute seule et puis tu gardes tout ce que tu dois garder et ensuite t'en feras ce que tu veux de cet argent, plutôt que de me dire moi je l'ai investi donc je les récupère et ensuite je verrai si j'ai envie de réinvestir sur toi. C'est dégueulasse. Et donc afin de ne jamais arriver à cette posture là on a discuté, puis en fait elle a retrouvé tout de suite une production qui est une copine à moi en plus, donc c'est super.
Si je puis me permettre, c'est pas comme ça qu'on devient riche, hein, Olivier.
Ouais, exactement.
Exactement. Parce que si c'est une pratique qui existe dans le métier, c'est pas par hasard, quoi.
Ouais, oui. Et puis il y a une logique aussi, mais je crois que c'est aussi le luxe de n'être pas que producteur. C'est-à-dire que ça, c'est le côté que j'aime pas de la prod. C'est le côté financier. Moi, il m'intéresse pas. Si j'ai produit Tania, c'était pas pour devenir riche, c'était parce que j'avais envie, parce que j'adorais son travail. Et à partir du moment où il y a eu une question financière, je me suis dit, qu'est-ce que c'est fou là, cette question-là? Elle doit plus exister, donc on l'a éteinte.
C'est parce qu'il y a beaucoup de prods aussi, j'imagine, qui se disent qu'ils investissent entre guillemets dans un artiste et que forcément tu te dis quand il est tout petit qu'il finit par devenir grand, j'aimerais bien pouvoir
croquer un peu,
récolter
quoi. Et puis ils ont des salariés, et puis ils ont même nous c'est l'artisanat, c'est ma femme et moi, donc si tu veux on va pas lui faire une fiche de paye de regarde, t'as vu le nombre d'heures qu'on a travaillé pour toi, non on l'a fait avec plaisir vraiment et je suis hyper heureux de l'expérience que ça. Puis on a grandi, elle a grandi avec nous, on a grandi avec elle, franchement c'est une super histoire. Et puis en plus elle est toujours avec moi en première partie en tournée, enfin tu vois, en vrai ça a pas changé grand chose si ce n'est que la personne avec qui elle travaille aujourd'hui a plus d'épaules que nous et on peut que lui c'était ça pour qu'elle évolue, quoi, parce que c'est vraiment une artiste qui va grandir et devenir géniale. Je suis content de pas avoir gâché le truc par égocentrisme
C'est un truc que vous voudriez refaire avec Marion,
C'est une bonne question,
d'aller encadrer des jeunes comme ça qui démarrent.
J'aime bien l'idée, mais là j'ai découvert quelque chose du coup depuis que je produis Putania, c'est que j'ai aussi un peu plus de temps pour mes propres projets. Et il y a quand même une sacrée responsabilité. Quand tu produis un artiste, en étant toi-même artiste, tu sais... Enfin, moi, j'étais prêt à tout. Enfin, j'aurais été ravi qu'elle fasse une carrière plus vite que la mienne et qu'elle explose et que... Enfin, tu vois, j'avais pas de problème d'égo là-dessus, j'ai l'impression. Mais après, j'y ai pas été confronté, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est un truc qu'elle aurait pu se demander ou que d'autres artistes auraient pu se demander. Est-ce qu'il y a un moment, il va freiner ma carrière parce qu'il a peur de que je lui passe devant? Moi, clairement, au contraire, j'aurais été très fier de pouvoir dire « Vous avez vu, je suis bon, hein ? Je suis bon producteur
je
aussi. »
Tu peux faire
hein.
ta première partie, s'il te plaît.
Mais oui, voilà. Ça m'aurait vraiment bien amusé qu'en tant que producteur, je puisse m'imposer en première partie de l'artiste que je produis. Donc, il y avait un milliard de choses qui me semblaient marrantes. Et pardon, c'était quoi la question ? Je me souviens un peu. Ah oui,
est-ce que vous avez des velléités de ce fait-là, de refaire ?
Et à l'heure actuelle, bah, comme on n'a pas les finances oui. qui suivent, voilà... après ça peut je sais pas, en fait okay. j'en ai aucune idée ouais.
Non mais ce qui est marrant c'est que je si j'ai bien compris votre collaboration avec Tania s'est passée un petit peu très naturellement
ouais.
Vous avez fini par vous lui faire des coups de main et au fil de l'eau vous avez fini par lui
mais ça a démarré en vrai parce qu'elle faisait mes premières parties ici au Grand Point Virgule et que et puis qu'un jour elle me dit ah, je démarre ma programmation la semaine prochaine mais je suis en galère d'affiches ou je sais pas quoi et puis le problème c'est que la graphiste elle a déjà fait le truc gratos. Je lui dis, alors, si c'est que ça, on te le file ce coup de main, hein, juste nous on va te la faire ton affiche et puis on s'en occupe, on a un graphiste et tout ça. Donc à la base c'était juste le petit coup de main, puis en fait on a pris du plaisir à le faire, puis elle était tout le temps avec moi en première partie, puis j'adore ce qu'elle fait, puis je trouve que ça collait bien avec mon univers, puis j'étais fier aussi de pouvoir filer un coup de main à cette fille qui est puissante quoi. J'avais envie d'être dans son sillage et de dire, je suis dans l'équipe de Tania Dutel, j'avais vraiment envie de ça quoi. Donc je pense que... et je pense même qu'il y avait plus de je suis dans l'équipe de cette fille... que de regarder comme je suis capable de produire des gens,
oui.
tu vois. C'était pas, je me voyais pas comme grand, je voyais plus comme accompagnateur, quoi.
Ouais, ça me parle. mais oui, donc de ce fait-là, je me disais, bah, voilà, t'es devenu producteur. Enfin, vous êtes devenu producteur un peu par la force des choses, mais de façon très naturelle.
Ouais.
Et comme j'ai un peu l'impression aussi que tu fais beaucoup d'essais-erreurs et qu'en fait, au final, tu finis par te dire, bah ça, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est pour ça ouais. que je te posais un peu cette question
oui,
de,
raison.
Est-ce que t'en ferais pas aussi une activité? Où tu découvrirais demain des jeunes dont t'aimerais bien être dans l'équipe, quoi, tu vois.
Bah ouais, je pense que ça a marché au coup de cœur. Et il y en avait eu quelques-uns avant. Il y a Adrien Arnoux, avec qui on avait failli travailler. Il y a eu Aymeric Lompré aussi, où on a été très proches pendant une période. Mais je pense que c'est des artistes que j'aurais pas su produire. Donc je suis content que ça soit pas fait au moment où ça a pu évoluer. Mais en tout cas, ouais, c'est deux artistes avec qui on a beaucoup discuté. Puis finalement, il y a eu d'autres opportunités pour eux. Ou des incapacités. Avec Aymeric, on s'est raté à cause des agendas. Tu vois, c'était
à ce point-là, ouais.
Bah, il était pas sur Paris au moment où moi je voulais avancer. Et puis voilà. Mais n'empêche, on est trop. En fait, ce qui est génial, c'est de voir que c'est des potes encore. Enfin, encore. Genre comme s'il y avait eu un demi-truc. En fait, c'était génial d'imaginer que ça. On s'est dit, oh, viens, on fait des trucs ensemble. Oh non, on n'y arrive pas. Oh, et puis le temps passe et on est toujours là dans les mêmes cercles en vrai.
Bah, c'est cool.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas, sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais bien aimé parler ?
C'est une bonne question, c'est un.
Toi qui es bavard.
Bah ouais, hein, c'est fou, hein, je réfléchis. Hein. Je pense que j'ai dû t'emmener, moi, sur les sujets quand.
Ouais, c'est trop bien.
Est-ce qu'il y a un sujet.
T'es pas obligé. Hein.
Ouais, non, je réfléchis à mes problématiques du moment. Je réfléchis aux analyses que je suis en train de faire. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller là-dedans ? Enfin, c'est pas des analyses, mais c'est quoi l'avenir ? Ça, c'est pas mal comme question. C'est quoi l'avenir, quoi ? Entre la scène Internet, les nouveaux réseaux, TikTok. Je suis confronté à un
Netflix.
Truc en ce moment. Netflix aussi, évidemment. Mmh. Et puis les spectacles gratuits et pas gratuits, et puis et puis tous les chemins là, c'est génial. J'adore la période dans laquelle on vit. Elle est horrible parce que on est entre les crises sanitaires, les crises climatiques, les crises sociales. On parle des gilets jaunes, mais on peut parler des talibans aussi. Donc il y a vraiment une crise mondiale qui est la terre tremble. On le sent sous nos pieds. Et pendant je pense 2 ans, j'étais un peu dépressif là-dessus. Enfin, dépressif, c'est pas parce que moi, dépressif,
oui.
j'ai toujours un peu la patate, quoi.
Enfin, un peu down.
Ouais, c'est un moment où j'ai fait, oh, ça me réjouit pas. Mais n'empêche que plus j'y réfléchissais, plus je me disais, mais en fait, vraiment, ça pose un problème. Et là, je suis rentré dans une phase où je me dis, mais c'est tellement excitant, en fait. On arrive à un carrefour de l'humanité. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant où il y a eu autant de tensions dans tous les sens? Je crois pas. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans l'histoire. J'ai l'impression d'y être maintenant, et en plus, par ma position d'humoriste, d'avoir l'occasion de tout regarder. Et donc, je me réjouis de ça, quoi. Je me réjouis de ça, et la période me fait pas peur, alors que je pense que ça va finir mal. C'est paradoxal, hein. C'est paradoxal, quoi.
Mais on revient à la paternité de ce fait-là. C'est... Parce qu'il y a un truc aussi de... Ok, tes enfants dans tout ça, quoi, tu vois, ouais. Parce qu'ils sont petits et...
Mais mes enfants, ils vont grandir, en fait. C'est ça aussi que je réalise. Là, le grand qui a 10 ans, je commence à réaliser que... je l'ai dit hier à ma femme, j'ai dit, c'est marrant parce que j'ai plus l'impression qu'ils habitent avec nous. J'ai l'impression qu'on habite ensemble.
Ah oui.
Okay. Tu vois la différence? Ouais. Avant, t'es chez toi et puis t'as des enfants qui sont... ils ont chacun leur chambre. Là, aujourd'hui, en fait, on habite ensemble, quoi. Il est là, il va dans la cuisine, il prend un truc dans le frigo, il va dans sa chambre, il va bouquiner. En fait, il y a quelqu'un qui est en coloc avec ma femme et moi. Et il y en a deux autres qui sont en train de se former pour arriver aussi. Et je réalise qu'en fait, c'est pas que des enfants. Comme je te dis, je mets toujours du temps à réaliser. J'ai mis par exemple 8 mois à comprendre que ma femme allait accoucher. Pendant 8 mois, elle a été enceinte, et à 8 mois, on est au resto et le serveur lui dit c'est pour quand? Elle dit pour dans 2 semaines, et je fais oh! Et je réalise qu'en fait ma femme n'est plus juste une femme enceinte, mais c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un bébé. Donc je mets toujours beaucoup de temps à intégrer les choses.
Je vous invite à aller écouter l'histoire de Daron avec Verino que nous avions faite il y a oui. quelques années, n'est-ce pas?
Oh là là, c'était il y a quelques années déjà?
Il y a, oui, 4 ans.
Oh putain. Oh la vache, donc j'en avais que 2 à l'époque.
Oui.
Ah bah c'est marrant. Et donc je mets toujours du temps à intégrer les choses, et je crois que là j'ai intégré que mes enfants ne sont pas que mes enfants, mais c'est surtout c'est des êtres humains qui vont grandir. Et il y a un moment j'aurais plus de prise sur eux, de la même manière que mes parents ils m'aiment, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire en vrai, si on était en pleine crise, je vais pas là aujourd'hui aller voir mes parents en disant pourquoi vous m'avez fait naître dans ce monde horrible. Bah non, j'y suis et je le ferai. Et je pense que mes enfants seront dans la même dynamique, c'est-à-dire que dans 50 ans, quand il fera 90 degrés et qu'ils vont essayer de s'en sortir vivants, ils vont pas dire à la génération du dessus pourquoi vous m'avez fait naître. Ils vont dire vous avez fait de la merde, et ils ont raison. Et comme nous, on peut dire à la génération du dessus vous avez fait de la merde, et que nous, on est en train d'en faire, en fait. Enfin, je viens et là, la question, c'est même pas est-ce que quelqu'un fait de la merde, c'est comment on s'en sort aujourd'hui. Et J'espère que l'éducation que je donne à mes enfants, c'est plutôt comment on s'en sort, plutôt que regarder, essayer de trouver les coupables.
Petite éducation survivaliste ou bien?
Non. Mais il y en a un qui a plus de tibia. Parce qu'on avait plus assez mangé. Non, c'est vrai que je les éduque pas là-dedans, quoi. Je les éduque dans la coopération.
Mais c'est une question, moi, tu vois, que je me suis posée. C'est-à-dire, ouais. En fait, à quel moment il faut que tu apprennes à tes enfants à survivre?
À faire du feu et...
Voilà, tu vois. Juste... et que c'est sans doute pas un truc qu'elles vont apprendre à l'école, quoi, tu vois.
Ça, c'est sûr, mais j'ai l'impression aussi que c'est un truc. Moi, pour le coup, j'ai été scout quand j'étais gamin, et j'ai appris en 2 jours, hein, ouais. À faire du feu et machin. Puis tu les mets devant Koh-Lanta, tu sais.
Oui.
Ça, c'est la vraie vie.
C'est Denis notre qui... père à tous.
Ah
oh, bravo.
Et il était pas mal celui-là, je prendrais pas le risque de faire une deuxième fois.
Merci beaucoup, Olivier, c'était vraiment cool. Pour les gens, je mettrai le lien, en fait, hein, dans les notes de l'épisode, si ça marche comme ça.
Avec plaisir, écoute.
Ils pourront venir te voir, toutes les dates qui sont sur ton site internet, qui est très bien fait, bravo, verino.fr.
Bah, écoute, merci beaucoup.
Ils peuvent également te suivre sur Instagram.
Instagram, Facebook, YouTube, partout. En vrai, moi, ce que je recommanderais, c'est de faire le petit chemin suivant. Allez sur YouTube, regardez une vidéo, celle de cette semaine ou de la semaine d'avant. Si ça vous plaît, bah, vous avez des chances d'aimer le spectacle. Et comme ça, il n'y a pas trop de risques non plus. Bah, cela dit, si tu m'as écouté parler pendant 1 heure et que tes oreilles ne saignent pas et que tu me supportes encore, a priori, ça doit être cool. Mais je suis très heureux du spectacle que j'ai actuellement, et je pense que si j'avais envie que les gens voient quelque chose de moi, ce serait ça.
Ah, c'est trop bien.
Goûter les vidéos, mais venez voir le spectacle parce que c'est le truc dont je suis content maintenant.
Je tiens à dire vraiment que tu m'as vraiment cassé en deux. Ouais. Et c'était mon premier spectacle post-Covid,
post-vie.
Post-vie. Et ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé, donc je m'étais jamais retrouvé avec un masque dans une salle, etc. Ouais. Et en fait, vraiment, je me suis retrouvé à des moments à m'asphyxier, à m'auto-asphyxier. Voilà.
C'est mon but, c'est de tuer les gens, hein, vraiment.
Et c'était compliqué, tu vois, vraiment. Il y a quelques moments où tu m'as fait du mal.
Clairement. Ah bah écoute, ça me fait plaisir.
Tu sais, quand t'as mal aux zygomatiques, tu vois, quand tu sors, bah c'était ça.
Ah ouais. Voilà. Ah bah c'est tellement l'objectif. Réussir à s'engager sur des sujets sociaux tout en gardant le rythme de rire du précédent spectacle qui était plutôt efficace. Ouais, monter une étape, progresser, quoi. Bah ouais, là, pour l'instant, sur ce spectacle, en tout cas, je suis au maximum de ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est génial.
Jusqu'à la prochaine.
Ça veut dire que je ne peux pas faire mieux pour l'instant.
Souviens-toi de la petite montagne.
Exactement. Je suis sur la marche. À quel endroit, on ne sait pas.
Merci, Olivier.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.